Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, Coup de pouce et Urbania. Au programme, 20 fromages, 8 conseils pour l'organiser. Argent et sentiment de culpabilité, une relation toxique. C'est pas vous, c'est le postpartum. Pourquoi vos hormones vous mènent la vie dure. Et vivre sans libido, ou presque, quand on est en couple. Bonne écoute!
Vins et fromages, 8 conseils pour l'organiser. Un texte de Nadine Deschenaux paru dans le magazine Coup de pouce. Les soirées vins et fromages font toujours sensation. Voici des réponses à 8 questions que l'on se pose quand on prépare une soirée de ce type. 1. Combien de temps à l'avance peut-on acheter les fromages? Le plus près possible de notre dégustation. Mais jusqu'à 2 jours avant, c'est très acceptable. Il est également important de les acheter fraîchement coupés plutôt que déjà emballés. 2. On les sort d'avance du frigo? Pas plus de 45 minutes. On veut que nos fromages se tiennent et soient juste un peu frais. Si on les laisse trop longtemps sortis, ils suintent, sont trop coulants et perdent leur gras. 3. Y a-t-il des mariages à éviter avec les fromages? Une grande erreur, les raisins. Même si ça fait épicurien, les raisins et tous les fruits acides altèrent notre goût. Exactement le contraire de ce qu'on cherche. 4. Des idées d'aliments à jumeler avec le fromage. Les fruits doux comme la poire, la papaye bien mûre, les figues et certains petits fruits d'ici, fraises, bleuets, cerises de terre, les fruits séchés et les chutenées ou compotes, sureaux, pimbinats, etc. 5. Comment bien conserver les fromages? Premier truc, en acheter moins et plus souvent. On les garde dans leur emballage original fourni par le fromager, qui contient 2 épaisseurs. On fait un paquet cadeau avec notre fromage sans même avoir besoin d'attache ou de ruban gommé. On range ensuite nos fromages dans le tiroir à légumes du réfrigérateur avec des légumes qui maintiennent un bon taux d'humidité. Si on n'a que de petits restes qu'on compte manger au déjeuner le lendemain, on place simplement un bol inversé sur notre assiette. Attention, pas de sac de plastique ni de pellicule de plastique. Véritables usines à condensation qui favorisent la formation de moisissures. Quant au papier ciré, il assèche le fromage. 6. Peut-on congeler les restes de fromage? Selon les producteurs laitiers du Canada, on peut congeler les fromages à pâte ferme, cheddar, brique, gouda, emmental, raclette, etc., et dur, parmesan. Bien enveloppé dans du papier d'aluminium, puis dans un sac de congélation, ils se conserveront jusqu'à 2 mois. Les demi-fermes, bleu, mozzarella, thom, avarti, oka, etc., peuvent aussi être congelés, mais cela pourrait altérer leur croûte. L'important est de faire décongeler les fromages au réfrigérateur afin qu'ils conservent leur humidité. Pour ce qui est des fromages à pâte molle, brie, camembert, et à pâte fraîche, bocconcini, il est préférable de ne pas les congeler. 7. Rouge ou blanc, quel vin est le mieux? Quand on parle de dégustation de fromage, on pense naturellement au vin rouge. Selon la sommelière Élise Lambert, cette habitude vient du fait que le plateau de fromage est presque toujours servi après le plat de résistance, souvent constitué de viande, et que généralement, c'est du rouge qu'on a dans notre verre. Mais pour une dégustation, notre spécialiste recommande plus souvent le vin blanc, car les caractéristiques organoleptiques du fromage crème, beurre, noisette, etc., s'harmonise plus naturellement avec celui-ci. Aussi, les tanins de certains rouges ne font pas bon ménage avec le fromage. 8. À quelle température servir nos vins? On a souvent tendance à servir nos blancs trop froids et nos rouges trop tempérés. Tout dépend en fait du type de vin, de sa complexité aromatique et de ses tanins. En général, on recommande les températures suivantes. 6 à 9 degrés pour les vins blancs légers ou doux, 9 à 12 degrés pour les vins blancs secs plus corsés, 12 à 15 degrés pour les vins rouges légers à mi-corsés, 15 à 18 degrés pour les vins rouges mi-corsés à corsés. Pour vérifier la température, on peut se procurer un thermomètre numérique qu'on place autour de la bouteille. C'était « Vins et fromages, 8 conseils pour l'organiser », un texte de Nadine Deschenaux paru dans le magazine Coup de pouce.
Argent et sentiment de culpabilité, une relation toxique. Un texte de James Lynch paru le 4 mai 2022 dans le magazine Urbania. Votre rapport à l'argent a peut-être besoin d'un peu d'amour. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que vous vous qualifiez, on assume, pour le crédit d'impôt de 500 $ destiné aux Québécois et Québécoises avec un revenu inférieur à 99 999 $? Avez-vous poussé un soupir de soulagement ou ressenti un petit feeling de culpabilité car vous n'en avez pas vraiment besoin, mais vous souhaitez vous gâter avec un MetaQuest pour échapper à toutes les crises du moment via le métavers? Pour certaines personnes, la relation avec l'argent peut être aussi toxique que l'inflation sur notre budget. Culpabilité d'en avoir, d'en parler, d'en dépenser sur des niaiseries. Voilà quelques astuces pour développer une relation plus saine avec l'argent. Comprendre votre rapport à l'argent. Lorsque vous avez reçu votre toute première paie lors de votre premier emploi, l'avez-vous mise de côté ou l'avez-vous flambée? Genre sur un lecteur mini-disque et un souper à la cage au sport? True story. Si vous avez la mémoire courte, dites-vous que vos valeurs d'antan par rapport à l'argent ressemblent probablement à celles d'aujourd'hui. Et votre relation avec l'argent commence tôt. Les enfants peuvent comprendre les concepts de base de l'argent dès l'âge de 3 ans, et à 7 ans, leurs valeurs reliées à l'argent sont déjà fixées. Par exemple, si vous avez vu vos parents se disputer ou encore stresser à propos de leurs finances, vous pourriez en être encore affecté aujourd'hui. Ainsi, si vous ressentez des émotions telles que de l'anxiété, du ressentiment ou de la honte face à l'argent, c'est un signe que les fantômes du passé continuent de vous hanter. En prenant le temps de décortiquer vos schémas de pensée, vous pourriez peut-être enfin faire taire la petite voix de culpabilité que vous entendez lorsque vous profitez du Boxing Day. Faites le point sur votre situation financière. Si vous ne savez même pas si vous avez les moyens de faire le plein d'essence d'une semaine à l'autre, vous pouvez vous sentir coupable de vouloir dépenser sur des petits plaisirs de la vie. Par contre, l'inflation ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre. Selon Stephanie Jenkin, planificatrice financière agréée et fondatrice de My Financial Planner, prendre 20 minutes par semaine pour faire le point sur vos finances peut être bénéfique. En prenant le temps de passer en revue votre budget, vos comptes et les soldes de vos cartes de crédit, vous pourrez apporter les modifications nécessaires pour améliorer vos finances et calmer votre anxiété. C'est 20 minutes par semaine très bien investies, comme on dit. Vous réaliserez aussi peut-être que vous en avez assez pour vous permettre une petite gâterie, comme un sac de chips à 7 $. Trouvez un équilibre entre amour et désir. Lorsque vous dépensez sans compter, est-ce que vous vous arrêtez pour vous interroger sur vos intentions derrière vos achats? Non. Il y a moyen de revoir votre perspective sur vos habitudes de consommation sans imaginer Pierre-Yves McSween en train de vous jeter un regard de dégoût à travers sa crinière bouclée. Dans une entrevue à la radio américaine NPR, l'experte financière Tiffany Alish suggère de vous concentrer sur vos besoins et vos amours. Cela vous apportera plus de joie à long terme que vos désirs immédiats. Vous devriez donc penser en premier à votre santé, votre sécurité et les choses que vous aimez réellement, genre un trench Burberry qui ne risque pas de se démoder avec le temps. S'il vous reste ensuite de l'argent et que vos désirs ne sont pas assouvis, allez-y et succombez à cette dépense qui vous fait de l'œil. Rappelez-vous seulement que plus vous dépensez d'argent pour vos envies et vos désirs, moins vous en avez pour vos besoins et vos amours. Consultez des experts et expertes. Si, après mains efforts, votre compte bancaire vous donne toujours de l'urticaire, il est peut-être temps de demander de l'aide professionnelle. Un conseiller financier, une conseillère financière, pourrait être la bouée dont vous avez besoin pour vous sortir de votre tsunami d'anxiété face à l'argent. Cette professionnelle pourra vous aider à faire le bilan de votre situation financière et vous fournir des outils et un plan pour rester sur la bonne voie. Bref, c'est un peu comme un psy pour vos finances. D'ailleurs, si vous n'y trouvez toujours pas votre compte, consulter un ou une psychologue pourrait vous aider à mieux comprendre votre relation avec l'argent. Après tout, en investissant temps et argent sur de l'aide professionnelle, vous pourriez éventuellement vous retrouver avec un bon gain en capital côté santé mentale. C'était « Argent et sentiment de culpabilité, une relation toxique », un texte de James Lynch paru le 4 mai 2022 dans le magazine Urbania.
C'est pas vous, c'est le postpartum. Pourquoi vos hormones vous mènent la vie dure? Un texte de Gabriel Tremblay-Baillargeon paru le 6 décembre 2022 dans le magazine Urbania. Après mon accouchement, j'ai eu l'impression d'avoir pris de la drogue dure. Malgré le travail de 24 heures et les montagnes russes hormonales qui viennent avec, je pétais le feu. J'ai appelé toute ma famille, pris 250 photos de ma fille durant la nuit et fait des blagues à toutes les infirmières de l'unité. Malheureusement, le retour à la maison a été moins rose. J'étais soudainement très fatigué. Les difficultés d'allaitement me faisaient pleurer en pleine nuit. Le quatrième trimestre venait de commencer. Dans ce laps de 3 mois suivant l'accouchement où maman et bébé s'adaptent à la vie hors bedaine, les mères subissent de grands changements hormonaux, identitaires et corporels qu'on a tendance à occulter. Fini la tension sur la nouvelle mère. Coucou le focus sur le nouveau-né. La minute science. La période postpartum est considérée comme le plus grand changement hormonal vécu dans une courte période par un être humain. Chassez la puberté et le SPM. L'ère post-accouchement, ça ne mérite pas un congé payé pour rien. Ça, c'est sans parler des changements physiques, comme le rétrécissement de l'utérus, l'évacuation des surplus de liquide par la sueur et, s'il y a lieu, la guérison des plaies. Directement après la naissance du bébé, les taux jusqu'alors extrêmement élevés d'estrogène et de progestérone produits par votre corps commencent à diminuer de manière significative. Pour compenser cette chute intense, l'ocytocine, aka l'hormone du bonheur, donne un grand coup. L'ocytocine est responsable du gros high qu'on vit après l'accouchement. Cette hormone magique fait en sorte qu'on se sent capable d'allaiter aux 2 heures et de FaceTimer toute notre famille en même temps sans ressentir une once de fatigue. Malheureusement, l'effet de cette tasse de café magique s'estompe après quelques jours. C'est habituellement là que le fameux baby blues fait son apparition. Une fois la fausse impression d'énergie offerte par l'ocytocine disparue, on se retrouve face aux chutes hormonales post-grossesse, qui peuvent entraîner des sautes d'humeur, une sensation de déprime, de l'irritabilité et une baisse d'énergie. Si ces symptômes perdurent au-delà de 6 semaines après la naissance de bébé, ils pourraient être les signes d'une dépression postpartum. Notez qu'un débalancement hormonal majeur pourrait aussi être causé par la thyroïde. En cas de doute, consultez un ou une médecin. Postpartum 101. tous ces changements physiques et hormonaux, ça coûte énormément d'énergie au corps à un moment où notre identité change complètement, souligne Andrea Hull, sage-femme et chargée des affaires professionnelles à l'Ordre des sages-femmes du Québec, qui, comme la majorité des membres de son ordre professionnel, prône un quatrième trimestre placé sous le signe de la bienveillance et du repos. Elle nous donne ces quelques trucs pour l'accueillir en douceur. Préparer le terrain. Pour Andrea Hull, la transition vers le postpartum se fait plus aisément quand une bonne hygiène de vie est mise en place dès la grossesse. L'exercice, une alimentation diversifiée et la méditation, par exemple, peuvent amortir les fluctuations hormonales une fois le postpartum arrivé. Andrea conseille tout de même d'avoir une liste d'experts et d'expertes et de ressources à consulter en cas de besoin. Psychologue, travailleur ou travailleuse sociale, infirmière. Développer un réseau de mères. Avoir un réseau de mères qui vivent la même expérience que nous permet de normaliser l'expérience du postpartum, mais aussi de briser l'isolement social. Ça enlève aussi la dépendance sur le conjoint, souligne Andrea Hull. Savoir reconnaître les signes de l'anxiété postpartum. L'échelle d'Édimbourg est une série de 10 questions à se poser chaque semaine pour évaluer son niveau d'anxiété. Si on score fort à quelques reprises, mieux vaut consulter un ou une professionnelle de la santé pour en discuter. Manger des aliments riches en tryptophane. Partout dans le monde, il y a des traditions alimentaires pour les femmes en postpartum, et ce sont toujours des aliments faciles à digérer et riches en tryptophane, comme des bleuets ou du chou, indique Andrea Hull. Diminuer le temps d'écran et arrêter de se comparer. Tout le temps passé sur Instagram en postpartum n'est pas nécessairement bénéfique. D'abord, la lumière bleue émise par les écrans nuit au sommeil, qui est déjà très fragmenté durant le quatrième trimestre, en plus d'avoir un impact négatif sur notre système endocrinien. Et malheureusement, les réseaux sociaux nous renvoient souvent une image idéalisée du postpartum où les points de suture, le vomi sur le chandail et les coliques ne font pas partie du portrait. Le message qu'on reçoit, c'est que le plus vite tu te remets sur pied après un accouchement, le plus tu peux te féliciter, observe Andrea Hull. Faire équipe avec son ou sa partenaire. Comment est-ce que je peux continuer de nourrir ma relation avec mon partenaire et reconnaître que c'est difficile pour lui aussi? Questionne la sage-femme. Il faut se dire qu'on veut traverser ça ensemble, même si chacun vit des défis que l'autre ne comprend pas complètement, conclut-elle. C'est pas vous, c'est le postpartum. Pourquoi vos hormones vous mènent la vie dure? Un texte de Gabriel Tremblay-Baillargeon, paru le 6 décembre 2022 dans le magazine Urbania.
Vivre sans libido, ou presque, quand on est en couple. Un texte de Bettina Zourli, paru le 19 mars 2021 dans le magazine Urbania. C'est aussi tabou que certaines pratiques sexuelles. Et c'est dommage. On a sacralisé le sexe. On en a fait le ciment du couple. Se réconcilier sur l'oreiller serait le meilleur moyen de se remettre d'une dispute, selon je ne sais quel média féminin qui ne cite absolument pas ses sources. On ne dit pas qu'on ne fait pas l'amour. On ne peut pas le dire. On pense que quand on ne fait pas, quand on n'en a pas envie, on est anormal et que notre couple est sur la pente descendante. Pourtant, c'est rassurant de lire que le principal problème rencontré dans les couples, c'est la baisse de la libido. 53 % des personnes ayant répondu à une enquête IFOP réalisé en 2019, le confirme. C'est aussi le tabou principal selon 47 % des personnes interrogées dans ce même sondage. Pourtant, une étude réalisée par Opinion Way pour Dorcel montrait que 82 % des Français-Françaises considèrent la sexualité comme étant incontournable dans un couple. Ne pas avoir de libido quand on est en couple, ce serait un problème. Mais surtout, un problème à cacher. Car si plus de la moitié indique avoir déjà rencontré ce problème, combien sommes-nous à en avoir déjà vraiment discuté honnêtement avec des amis? Non, le sexe n'est pas le ciment du couple. À mon sens, il est impératif de sortir de ce carcan limitatif selon lequel il faudrait avoir une relation sexuelle minimum deux fois par semaine quand on est un couple sain et qui s'aime. Bon, la fréquence fluctue selon les personnes, mais vous avez compris l'idée. On se met une pression de dingue. On finit par tellement intellectualiser le sexe qu'on tue notre libido à petit feu. Et comme personne n'en parle, on a l'impression qu'on est anormal quand on n'a pas envie de coucher avec notre partenaire. Et pourtant, je le répète, non, le sexe n'est pas le ciment d'un couple. D'ailleurs, une enquête IFOP réalisée pour la plateforme charles.co affirme que 51 % des hommes et 62 % des femmes ont une libido parfois absente. Et encore une fois, comme personne n'en parle, beaucoup de monde se force pour avoir l'air normal. Déjà, rappelons un fait simple. Tous les couples fonctionnent différemment. Il serait donc stupide, comme pour n'importe quel sujet d'ailleurs, de faire des généralités à propos de la sexualité dans le couple. Le sexe peut être central comme absent au sein d'un couple, sans que cela soit une pathologie ou un problème à régler. J'ai eu une discussion avec mon conjoint il y a 3 ans. Nous organisions un de nos premiers week-ends en amoureux. Nous étions en couple depuis à peine quelques mois et nous n'avons pas fait l'amour ce week-end-là. Pourtant, j'ai un souvenir incroyable de cette escapade. Nous avons beaucoup ri. Nous avons profité ensemble d'un moment hors du quotidien. C'était un week-end de qualité. Lors de ce voyage, nous avons abordé le sujet défendu de la sexualité dans le couple et je lui ai alors expliqué mon ressenti. J'étais en fait tellement en osmose avec lui, tellement heureuse et apaisée à ses côtés, que le sexe était comme devenu superflu. Ne vous y méprenez pas. Nous ressentons du désir l'un pour l'autre. Nous nous aimons. Néanmoins, nous avons arrêté de nous mettre la pression sur la fréquence de nos rapports sexuels et surtout, nous avons ouvert le dialogue sur le sujet. La libido et ses fluctuations. J'ai découvert un fait sur moi, un fait que j'ai essayé de taire pendant des années, jusqu'à en parler à mon mari il y a peu de temps. J'ai 2 types de libido. Quand je suis célibataire, je suis généralement sexuellement très active parce que j'aime la nouveauté, j'aime les choses légères et parce que je ne me prends absolument jamais la tête sur mes relations d'un soir. Quand je suis en couple, en revanche, très vite, ma libido se fait la malle et honnêtement, je ne sais pas où elle part. En fait, si. Elle a été remplacée par son amie routine, ma pire ennemie. La sexualité en couple n'est pas quelque chose que j'arrive à appréhender facilement. Et comme j'ai passé la majorité de ma vie sexuelle en couple, j'ai aussi passé la majeure partie de mon temps à ne pas être pleinement épanouie au lit. La découverte de mon plaisir en solitaire a d'ailleurs beaucoup aidé dans cette prise de conscience tardive. Je discutais de cela avec un collègue pas plus tard qu'hier, et il me confirmait qu'il ressentait la même chose. Je pense que nous sommes des milliers à avoir une personnalité sexuelle multiple. On est peut-être, d'ailleurs, tous et toutes comme ça, finalement. Seulement, on n'en parle pas. On ne parle pas de ces choses taboues, alors que la sexualité est un sujet qui intéresse secrètement tout le monde, ou presque. Et d'ailleurs, s'y intéresser n'est pas une obligation, loin de là. De plus, comme l'explique Camille Rochet dans son livre « L'amour commence après 3 ans », il y a plusieurs types de désirs dans une relation. Le désir passionnel, qui a tendance à s'estomper, laissera place à une libido différente, qu'on peut entretenir de diverses manières. Nous sommes des animaux complexes, et notre libido fluctue aussi avec l'humeur, notre santé physique et mentale. Et il est primordial d'arrêter de mettre le couple sur un piédestal, tout simplement. En fait, le sexe peut être le ciment du couple si on a une libido active, qu'on ressent un besoin de sexualité. Mais il n'a pas besoin de l'être si notre couple base sa solidité sur autre chose. N'oublions pas, d'une part, qu'il y a des milliers de façons de pratiquer le sexe en couple, mais qu'il y a aussi des milliers de façons de vivre le couple. Vivre sans libido, ou presque, quand on est en couple. Un texte de Bettina Zourli, paru le 19 mars 2021 dans le magazine Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visivoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau, Luc Mercure et Lynn Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche et Nicolas Zartman à la présentation et au montage.